Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Startup Mafia. Je suis Kamel Zeroual, investisseur dans la tech et entrepreneur depuis toujours. Startup Mafia, c'est un format long. Une saison est consacrée à une scale-up et un épisode est consacré à un talent. L'objectif, comprendre l'envers du décor avec un prisme talent, car c'est eux qui contribuent, avec les fondateurs, à faire grandir le business de manière si rapide. Excellente écoute à tous! C'est parti. Salut Mathieu, je suis ravi de passer du temps avec toi. On va discuter de ton parcours. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter dans les grandes lignes?
Ouais. Merci. Bonjour déjà Gabriel. Merci pour l'invitation. Déjà, je m'appelle Mathieu Barral. Je suis français en ce moment à Londres. Parcours, donc maintenant en ce moment je m'occupe de la commercial team, la sales team aux US pour checkout.com. J'ai 28 ans, originaire de Paris, et j'ai bougé à Londres en 2011, ça doit faire quelques années, une dizaine d'années maintenant. Donc voilà.
Super. Bon, on va revenir sur toutes ces étapes chez Checkout, parce que tu fais partie des historiques quand j'ai fait un épisode avec David Finel. Un des premiers noms qui est ressorti rapidement, c'est le tien. Et donc je pense que tu as un parcours extrêmement riche chez Checkout en termes d'évolution et de prise de responsabilité. Mais avant ça, donc tu disais que tu avais grandi à Paris. C'est quoi ton histoire au départ?
Histoire au départ. Mon père travaillait chez Unilever et donc on a un peu voyagé. J'habitais au Japon, très jeune, Turquie, Russie, donc toujours un peu l'envie de voyage. Ensuite, on est revenu sur Paris vers quand j'avais l'âge de 12 ans. Ouais. J'ai fait 4 ans et demi à Paris, ensuite Aix-en-Provence, dans le sud, pour faire mon bac international, donc l'IB. Pour soi, après, je suis allé à Londres. Ça faisait du sens de continuer les études en anglais. C'était assez sympa. Je suis parisien, mais j'ai pas vécu tant que ça au Paris. 4 ans et demi, le collège, en gros. Après, c'est vrai que la vie dans le sud était sympa pendant le lycée. Il fait beau, il fait chaud la moitié de l'année, donc c'est intéressant. Et tu commences à découvrir d'autres cultures, surtout avec dans les lycées. IB, on va dire, c'est un système scolaire international où tu as des cultures très différentes.
Donc tu passes un bac international, ouais. C'est ça?
Ouais, exactement. Je passe le bac international.
Cool.
Pour essayer de toujours l'envie d'aventure, on va dire. Je voulais pas forcément rester en France. J'adore la France, mais j'aime bien aussi découvrir surtout les études anglaises et américaines. Donc j'allais aux États-Unis, soit j'allais en Angleterre. États-Unis, c'est loin. C'est cher en termes d'études. Je me suis dit, allez, je vais aller en Angleterre. C'est moins loin et c'est moins cher. Et j'adore Londres. J'ai fait mes études là-bas de relations internationales. Rien à voir avec la politique, rien à voir avec le paiement. Pendant 3 ans.
À Londres? Sûr,
super simple. À Londres, ouais, à Londres, okay. Même. J'étais accepté dans d'autres et j'ai dit, je refuse. J'ai envoyé dans une capitale. Je trouve ça quand même plus sympa. Alors, il y a des gens qui adorent la vie de campus pendant 3 ans. C'est vrai que tu crées un lien assez spécial avec pas mal de personnes. Mais moi, je voulais vraiment être sur Londres et découvrir cette ville. Pendant 3 ans, j'ai fait relations internationales. J'ai adoré vraiment apprendre un peu plus sur, outre la politique, mais un peu plus théorique. Et ensuite, j'ai fait LSI pendant 1 an. Donc, j'ai fait mon undergrad, ma licence et ensuite mon master sur la politique économique de l'Union européenne. Donc, c'était assez intéressant. Et je l'ai fait l'année du Brexit. Donc, c'était encore plus intéressant de faire, d'étudier en Angleterre l'Union européenne l'année du Brexit. Et ensuite, en plein milieu d'année, notre head of sales, maintenant Antoine Nouguet, il était chez Checkout depuis 1 an. On se connaissait depuis pas mal d'années. Il me dit viens une startup qui est cool.
Mais vous connaissez, ouais. de quel horizon?
On était à Paris, on était au collège ensemble à Paris.
D'accord.
Il venait vivre à Londres, rejoindre une boîte qu'il a vue sur, je crois, Indeed.com où c'était sur un et donc il a joined en sales interne.
Mais toi, tu es très loin de ce sujet parce que finalement, tu fais des études
Complètement.
de sciences politiques, tu t'intéresses à, j'imagine, plein de choses qui se passent notamment en
Dans le
Angleterre,
monde,
ouais,
ouais.
en particulier en Angleterre. Et donc, tu as un pote qui t'appelle pour parler d'une boîte, et alors que finalement, tu n'as pas du tout fait des études business. Qu'est-ce
Non.
qui te fait tester le truc?
Après, l'avantage et l'inconvénient comment dire, l'éducation anglaise, c'est qu'en fait, la plupart, c'est par exemple à Goldman Sachs, sont très réputés pour recruter des gens de géographie de Cambridge et d'Oxford. Donc en fait, les études anglaises sont très vagues et en fait, ça te permet de postuler dans n'importe quel job. Tu peux avoir fait de l'histoire et aller en fait être trader chez Bloomberg. En fait, ils regardent pas forcément ce que tu as fait en termes d'études. Ils regardent plus où tu as fait les études et ensuite les notes dans tes études. Ensuite, ils se disent le reste, tu peux apprendre. Alors je te dis pas ingénieur ou un vrai chercheur, mais en fait tous les métiers un peu plus biz dev ou même trader où tu peux apprendre en fait ton boulot en faisant quelques années. Et en fait à ce moment-là, il était dedans, c'était un très bon pote. Je savais vraiment pas quoi faire. Je me suis dit j'allais envoyer des CV dans des boîtes de consulting tout ça, mais après j'ai jamais voulu travailler dans une grosse boîte. Et celle-là, je me suis dit, tiens, les fintechs, c'est intéressant. Après, on est fin 2015. Fin 2015, le mot fintech n'existait pas vraiment. Je crois la seule boîte que je connaissais en fintech, c'était TransferWise. Maintenant, Wise. Je me rappelle, je l'utilisais pour envoyer de l'argent entre la France et l'Angleterre, en vrai. Et il me dit, tiens, tu veux être sales? J'adorais vendre. J'étais plus dans le biz dev et essayer de convaincre les gens, peut-être d'où vient la politique, c'est essayer de convaincre des gens et de venir chez Checkout en tant que sales, c'est de convaincre des gens de venir. Et je me suis dit, allez, on le fait. Donc en même temps, j'ai fait 6 mois d'études, je faisais mes études et en même temps, je faisais Checkout les 6 premiers mois. Donc c'était assez, surtout t'as une thèse à la fin au UK sur en termes pour la fin de ton master. Donc c'était assez intense les 6-9 prochains mois. Et il me dit tiens mon pote, il me dit Antoine, il me dit tiens c'est une opportunité, on sait pas si on va grandir, il y aura peut-être plus de place plus tard en sales interne, bref on saura pas si on aura plus de jobs disponibles. Et donc j'ai fait vas-y on va le faire. Et donc j'ai commencé vraiment à faire des leads entre eux qui faisaient, je répondais au téléphone entre 1 000 et 4 000 euros par mois. Pas de revenus, genre de volume total, c'est-à-dire du
Ah
revenu,
oui.
c'était entre 20 et 100 euros par mois de revenus pour Checkout. Donc j'ai beaucoup appris à ce moment-là. C'était assez intéressant de. J'aime pas le mot commencer en bas de l'échelle, parce que c'est faux en vrai. Je parle toujours aux clients. Mais en fait, ça te permet de faire quand même un peu plus d'erreurs de compréhension parce que la personne en face de toi connaît encore moins le paiement que toi. Donc, ça te permet de. Mais ils sont tellement dépendants de leur système de paiement et tellement tout que toi, si tu fais une erreur en tant que sales, ça peut vraiment impacter sur leur business. Donc,
Et à l'époque, vous vendez quoi comme solution? Tu te rappelles des briques fonctionnelles que...
c'était vraiment du pur Visa Mastercard. Un peu, en fait, le monde du paiement a beaucoup changé sur les produits annexes. Mais en fait, le pur paiement où je te prends une carte Visa Mastercard en ligne, alors oui, Apple Pay, Google Pay ont rajouté, mais en vrai, c'est un peu la même chose. C'est 5, 6, 7 dernières années. Donc, c'était vraiment du Visa Mastercard sur un site internet, beaucoup de Shopify. Shopify commençait à venir et arriver. Ensuite, tout ce qui était téléphone, voilà, les gens qui prenaient le paiement sur le téléphone, ça existait beaucoup à l'époque. C'est de moins en moins, ça existe de moins en moins. Donc, c'était vraiment du pur Visa Mastercard product au UK, en France et un peu moins international. On se faisait vraiment, c'était UK Europe à ce moment-là.
Super. Et donc, tu commences à finalement faire tes armes avec tes premiers clients. Tu couvres quel scope? Tu t'occupes de la France? Tu t'occupes de UK? Tu t'occupes de quel type de clients?
En vrai, je m'occupe tout mondial parce qu'il y avait que il y avait trois sales dans la boîte. Donc en fait, chacun faisait ce qu'il voulait. Il n'y avait pas vraiment de scope, mais c'était vraiment beaucoup plus sur le côté UK, vraiment. UK et en fait Europe, Allemagne, je sais pas, moi, voyager en Espagne, en Allemagne, au Danemark, aux Pays-Bas, faire beaucoup de conférences où tu as ce petit bouffe sur le côté que en fait personne te connaît, t'as pas de nom. Ça a beaucoup changé depuis. Et c'était une belle époque. On essaie de grandir et chaque client qui venait avec nous, c'était une mini célébration. C'est toujours une célébration, peut-être pas sur la taille du client maintenant, mais c'était vraiment le scope UK Europe.
Super. Et toi, dans ta vie perso, donc tu commences à te balader partout, où est-ce que tu es dans ta vie perso? Comment ça match finalement cette vie de start-up où tu es par monts et par vaux?
Ouais, j'étais avec ma femme maintenant, mais ma copine à l'époque, on s'est rencontrés à l'université, donc ça fait 8 ans qu'on est ensemble. Donc elle a toujours vécu Checkout, on va dire. Ça fait 6 ans qu'elle vit Checkout sur les 8 ans ensemble, donc c'est assez intéressant. Elle travaille aussi dans une start-up à Londres, donc les horaires, les voyages en semaine. Après, on était très focus Europe, donc c'est vrai que l'aller-retour pendant 48 heures à Berlin ou à Amsterdam, c'est pas compliqué. Ça commence à être compliqué quand tu dois aller à Singapour, à Dubaï ou à San Francisco, parce que déjà c'est plus long, mais en plus t'es bien fatigué quand tu rentres le vendredi soir à Londres. Non, c'était on travaillait tout autour de nous. Il y a quand même pas mal de personnes qui travaillent en start-up ou chez Google, chez Amazon ou chez Facebook, qui ont des offices assez énormes à Londres. Donc en fait, tu as quand même une mentalité de gens qui ça dérange pas de travailler, de voyager et de travailler. C'est assez intéressant.
Et en termes de recrutement, là, quand tu arrives en tant que stagiaire, tu fais tes
Ouais.
armes, tu prends le truc, comment tu prends des responsabilités, tu commences à recruter, comment évolue ton poste, en fait, dans les 3 premières années et puis par la suite?
Les 3 premières années, c'était vraiment ce qu'on a dit, le IC, le Individual Contributor, c'est-à-dire t'es le sales et tu dois aller vendre pour les clients. Moi, j'ai fait beaucoup au début tout ce qui était fintech. Donc en fait, on avait vraiment cette idée d'être fintech of fintech. On envoyait, et surtout au début, il y avait, bon, ce qui marchait en fintech, c'était tout ce qui était money remitters. Donc les gens pour envoyer de l'argent à l'étranger, TransferWise, TransferGo, on a signé Opal Transfer. Tu avais beaucoup de boîtes qui se lançaient dans ça. Et en fait, ce qu'ils se sont dit, on va faire que du en ligne et on va faire Visa Mastercard dans ce côté-là. En fait, il y a une transition et c'est là où pourquoi il y a beaucoup de. Après, je répondrai sur la première question, mais en fait, dans le monde du paiement, il y a deux choses qui ont changé les choses pour le en ligne dans les années entre 2014 et 2017. C'est l'interchange de la carte a baissé. Donc en fait, le coût de la carte avant était à 0,7, 0,9, dépendant de la carte, et elle est passée de 0,2 à 0,3. Donc le coût, ça a été régulé par l'Union européenne. L'Union européenne dit, les banques, vous faites trop d'argent, maintenant ça va être régulé à 0,2, 0,3. Et donc ça a beaucoup changé. Bien sûr, on connaît la marge de la profitabilité d'une start-up de fintech, elle n'est pas beaucoup. Donc, si tu réduis le coût de la carte pour top-up, qui est la plus facile qu'un chèque ou un bank transfer, en fait, c'est à ce moment-là que ça a vraiment décollé. Et la deuxième chose, c'était tout ce qui était 3DS, parce que tu étais protégé contre les chargebacks. Parce qu'il y a plein de boîtes qui se sont écroulées. Parce que elles ont pas mis le 3DS et ils sont fait attaquer de partout et ils ont eu des chargebacks, ils ont perdu des centaines de milliers d'euros. Donc c'est pour ça que beaucoup de fintech ont grandi entre 2015 et 2018-2019. Pour en revenir ensuite sur le parcours, c'était vraiment je signais tout ce qui était dans le gaming, donc les boîtes de jeux vidéo. J'ai toujours aimé les jeux vidéo et donc c'était intéressant. Ils font beaucoup de transactions internationales, beaucoup de petits tickets. Beaucoup de différentes comment dire, monnaies. Donc en fait, on monétisait plutôt pas mal sur ce côté-là. Et ensuite, les fintechs. Donc, pendant 3 ans jusqu'en, entre 2000, ouais, à peu près 2016 et fin 2018, j'ai juste grandi en titre, voilà, sales manager, senior sales manager, et tout ça, mais j'avais pas forcément de team en dessous de moi. Checkout, après, jusqu'en début 2020, on devait être 400, et maintenant on est 2000. Et en fait, entre début 2016 et demi 2020, on a grandi de 200, 250. Vu qu'on était, on a fait notre première levée en mai-juin 2019, en fait, on pouvait pas recruter tant qu'on n'avait pas fait du profit le mois précédent. Et donc ça, c'était donc tu recrutes des ingénieurs à Londres, ça va vite en termes d'acquinte que tu dois signer pour enlever ta profitabilité. Donc on devait être, je pense fin 2018, début 2019, on était moins de vingtaine de sales dans la boîte, un peu éparpillés en Europe, au UK, au Middle East et à Singapour. Et en fait, fin mi-2019, on a commencé après la levée de fonds, on a commencé à beaucoup recruter et je suis devenu head of UK sales, m'occuper de tout ce qui était UK. C'était assez intéressant, c'était vraiment sympa. Et on a bien grandi à ce moment-là.
Super. Et donc là, donc la boîte, elle change un peu de braquet. Elle reste finalement assez internationale avec, j'ai l'impression, une mafia dans la mafia de Français plutôt bien établie. T'en fais partie. Comment toi, tu te staffes quand tu commences finalement à prendre des responsabilités d'un peu de manager? Est-ce que tu commences à leverager ton réseau d'anciens français et ou de LSI et ou de je ne sais quel network ou finalement tu es assez agnostique là-dessus?
Ouais, pas du tout. Oui, il y a beaucoup de Français. On va dire. Au début, je pense que c'est bien ou pas bien. Je veux pas. On va pas juger. Ça a plutôt bien marché. Donc oui, il faut dire francophone et pas français, parce que notre CEO est suisse.
C'est vrai.
Mais à ce moment-là, en fait, en vendant UK, tu essaies de prendre des profils. La première chose que je dis aux gens, c'est you sell to people. Tu vends à des gens. D'abord. Et donc en fait, un Français qui vient de Paris, ça peut marcher, mais ça marche pas toujours. Quand tu vas à Manchester ou quand tu vas dans le sud de l'Angleterre, tu vas à Londres, voilà, t'as des gens différents. Et donc en fait, il faut recruter des profils qui puissent vendre à des gens différents. C'est comme voilà, c'est quelqu'un de Marseille est différent de quelqu'un de Lille, et c'est important de comprendre la culture du pays, mais aussi la culture locale. Et donc en fait, moi, je me suis vraiment staffé sur la compréhension de ces gens-là, des gens qui ont été en sales, il faut quand même des gens qui ont quand même quelques expériences, des gens plutôt entre moins de 30 ans, mais qui ont déjà eu 2 ou 3 ans d'expérience, on va dire. En Angleterre, les gens commencent à travailler très tôt. Moi, j'ai travaillé, commencé 18 ans, 21, 22 ans. J'ai commencé à travailler à 22 ans et la plupart des gens commencent à travailler à 21 ans, donc juste après la licence. Ce qui est quand même assez tôt comparé à Paris ou en France.
Et puis les
Donc en
gens, en
fait,
général, reprennent des études un peu plus tard, il y a une espèce d'aller-retour.
ouais, pas tant que ça en fait. Soit tu vas direct au MBA. Sur certains profils, tu peux aller en MBA, mais après ça dépend. Si tu es un chercheur, tout ça, on va mettre un peu de côté. Mais il n'y a pas. En fait, tu peux grandir assez rapidement dans ta carrière quand tu es en Angleterre. Et donc, les gens, ouais, voilà. C'est soit tu fais quelque chose à 35, 40 ans pour essayer de changer de carrière. Mais il n'y a pas ce absolument de faire le master très français où je suis obligé de faire un master sinon j'ai pas fait grand-chose. Moi, voilà, j'ai été poussé par mes parents. Tu dois faire un master, attention. Et donc, on a plutôt recruté des gens. Les Anglais qui avaient déjà travaillé dans certains secteurs et plutôt jeunes de ce côté-là et ça a plutôt bien marché. Après, on a recruté des anciens du paiement, des gens qui ont été dans le paiement, chez nos compétiteurs. Ça, c'est plus du 50-50. Si ça marche très bien, Mais en fait, tu penses toujours qu'ils vont overachieve et c'est pas si simple que ça. Ramener un client d'une autre boîte qui marche très bien, qui sont une très belle boîte aussi, qui ont une très belle technologie, t'entends, c'est pas la priorité numéro une. Alors si c'est dans une technologie moins bonne, oui, c'est-à-dire qu'ils ont signé les moins gros comptes. Donc ça a été assez intéressant, ouais, de créer cette équipe. Et on a recruté une dizaine il y a 4 ans à peu près, et il y en a toujours 7 ou 8 qui sont là. C'est-à-dire que ça a plutôt bien marché.
Super, c'est super. Et donc quand tu parles de changement de braquet, vous passez de 400 à 2000, donc ça commence à devenir une boîte full internationale. Toi, tu prends d'autres responsabilités, tu parlais des US, comment ça se matérialise pour
Donc, ouais.
toi?
Donc, je suis allé faire 1 an à Singapour entre-temps. Donc, j'ai fait 2021 en plein Covid. Donc 2020, mi-2020, on me dit, tiens, tu vas aller en Asie, essayer d'aller voir dans d'autres pays. Je fais, pourquoi pas, c'est intéressant, j'ai envie de découvrir d'autres cultures comme mon parcours l'a fait.
Et tu pars avec ta future femme ou tu pars tout seul?
J'y allais avant et ensuite elle allait me rejoindre. Et à ce moment-là, je me suis dit, on est mi-juillet, le Covid disparaît pratiquement. Début juillet en 2020, on se fait 3 mois de confinement. Et ensuite, début juillet, il n'y a plus grand-chose. Tout le monde dit c'est la fin du Covid. Je me dis, bon, voilà, Singapour va rouvrir parce qu'ils ont fermé leurs frontières pendant 2 ans. Je me dis, tout va rouvrir. Et en fait, je commence déjà à bosser dessus. J'y vais en janvier 2021. Et là, le Covid repart. Et donc, en fait, ils referment les frontières, tout ça. Donc, je me suis occupé pendant un an et demi de l'APAC, un peu moins d'un an et demi. Très intéressant aussi. J'ai fait quelques mois à Singapour. Ça, j'adorais apprendre sur le paiement là-bas. C'est vraiment très différent de l'Europe. Ils sont beaucoup dans tout ce qui est wallet. Il y a GrabPay, il y a WeChat, il y a Alipay, il y a Gcash, Gojek. En fait, ils font vraiment les super apps, ce que rêve toute fintech en Europe de faire. Là-bas, ils le font. Donc, tu prends ta nourriture, tu prends ton compte en banque, ton FX,
Ton
en même temps,
taxi.
ton taxi. Tu fais tout dans une app. Point qu'il faut souligner, il n'y en a aucune qui est profitable. Parce qu'en fait, tu as d'autres computeurs qui arrivent et qui ont encore plus d'argent et qui refont la même chose. C'est pas très compliqué. Et donc, j'ai beaucoup appris sur la Malaisie, l'Indonésie, Singapour, même le Vietnam, sur les moyens de paiement au Vietnam, en Chine. Donc, j'ai beaucoup aimé ce côté-là. On a bien grandi. Vu qu'on est très Visa, Mastercard, on va dire centric, c'était un peu plus compliqué pour nous d'aller signer des comptes locaux, mais on a surtout signé les comptes, les grosses boîtes internationales qui font Visa et Mastercard. Et fin 2021, on m'a dit, voilà, 2020, les 3 prochaines années, le focus, c'est les US. Donc j'ai dit, OK, bah, on y va. On y va et on va essayer de bien grandir là-bas. C'est quand même. Si tu as envie d'être une très 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 grosse boîte, surtout dans notre industrie du paiement, les US, c'est incomparable dans l'e-commerce. C'est l'endroit où tu fais vraiment du revenu, du volume. Et ça c'est intéressant d'être une boîte européenne. Il y en a très très peu de boîtes européennes qui en fait cartonnent aux US en étant. Et là, on a eu un shift de mentalité dans la boîte. On a recruté beaucoup de C-level en 2021, basé à New York. Voilà, notre CFO, notre CPO, notre CRO. Et c'est un peu une shift de mentalité à Checkout, où Londres est vraiment le headquarter en termes de tech, de développement. Mais en même temps, on a créé un second, on va dire, hub à New York, de ce côté-là. Et c'était fondamental. Parce que si tu veux réussir aux États-Unis, il faut être local. Et il faut avoir des personnes bien placées et haut placées aux États-Unis. C'est très important pour
D'accord. Et donc tu fais toute cette exploration là à Singapour, tu reviens avec une nouvelle mission. Comment tu fais le shift? Donc tu vas t'installer à New York. C'est quoi l'idée dans les prochains mois là?
Ouais, c'est exactement. C'est là, je suis à Londres en transition. Et ensuite, d'ici la fin de l'année, je vais aller. Donc, je travaille de Londres pour les États-Unis. J'y vais à peu près toutes les 2, 3 semaines. Maintenant, à New York, à San Francisco, à Vegas. Il y a beaucoup de shows à Vegas. Et on pense que c'est drôle, mais en fait, c'est pas sympa du tout quand tu fais 48 heures pour aller, tu fais 14 heures d'avion pour rester 48 heures et repartir. C'est pas toujours cool. Mais voilà, je serai basé à New York en la commercial team là-bas. Donc,
D'accord. Donc tu vas
ouais.
staffer toute ton équipe là-bas, tu vas repartir d'une feuille blanche où il y a déjà du people?
Pratiquement du feuille blanche. Donc en fait, on a fait une façon assez intéressante qu'on en fait on co-lead. Donc il y a quelqu'un à New York, un Américain qui a travaillé chez WeWork à McKinsey. On a décidé de co-lead la commercial team aux US. Donc on est tous les deux en haut en reportant notre head of sales. Et moi, je trouvais ça assez intéressant. C'est tellement gros comme marché. Surtout le time zone est assez compliqué, c'est même pas pour lui. Il y a quand même pas mal d'horaires, vu que toutes nos équipes product est très souvent à Londres. Donc moi, ça m'arrange d'être ici parce que t'as l'école les matins, et ça, c'est intéressant. Mais en fait, si t'es basé à San Francisco, c'est très très compliqué en termes de time zone. Quand t'es une boîte européenne, tu dois te réveiller à 5 h du mat, alors pour être dans des calls à midi, quoi. Midi 1 h, donc tu rates quand même pas mal de la journée. En termes de staffing, là-bas on a, on va dire, un joli budget pour pouvoir recruter. Et là, on a recruté, on était 2 sales mi-décembre, et là on est 23 sales aujourd'hui. Et le but, c'est d'être 100 commercial d'ici la fin de l'année. Donc on a commencé pas forcément en sales BDR. Donc BDR, SDR, des gens qui font du call calling, call outreach. Ça marche incroyablement bien au UK, en Angleterre, aux États-Unis. Ça vraiment, ça change tout. C'est de passer, ouais, de 5 à 100 personnes en 12 mois en côté commercial aux États-Unis. C'est très important.
Super. Et donc c'est un nouveau challenge. Et je repense à ton ami Antoine là. Il est toujours chez Checkout ou il est passé à autre
Il est
chose?
toujours chez Checkout. Il est head of sales Checkout, donc je reporte à lui 6 ans plus tard toujours. Ouais, c'est important de garder certaines bases des gens, que et c'est très compliqué de garder des gens. C'est comme tu as demandé, qu'est-ce qu'il y a entre 400 et 2000? C'est pas forcément entre 400 et 2000 qui compte, c'est combien d'années entre les gens qui ont commencé la boîte et en fait maintenant. Et c'est là où ça fatigue, hein. On va pas se mentir. Et dans d'autres, en opération, en product, c'est en ingé, c'est pas la même chose qu'en commercial. C'est pas la même fatigue, c'est pas les mêmes targets. Et plus qu'en fait de passer de 400 à 2000, c'est de garder la culture qui a été créée au début. Et ça, c'est assez important. Et c'est pour ça que c'est de garder les anciens, parce que c'est important pour garder qu'est-ce qu'est la culture Checkout. Je sais pas, je peux pas te la décrire, et ça c'est un autre podcast, mais c'est important parce que toutes les équipes ensuite qui arrivent vont essayer de garder la même culture. Et si c'est une bonne culture, tant mieux. Si c'est une mauvaise culture, tant pis. Il y a d'autres boîtes qui n'ont pas réussi parce qu'il y avait une culture qui était pas bonne, et ça, généralement, ça vient des anciens. C'est pas les nouveaux qui ont créé la culture, c'est les gens qui étaient là avant. De créer cette culture, de continuer à faire. Et donc, lui, il est là, il y a toujours pas mal de personnes qui sont là depuis 5, 6, 7, 8 ans, 9 ans, pour garder ce lien entre, oui, tu passes de 400 à 2000 en 18 mois. C'est dur, et surtout en plein période de Covid, où en fait, t'es pas au bureau. Et ça, c'est encore plus dur de recruter, parce que sur Zoom, c'est dur de donner une culture. Nous, avant, on faisait, une fois dans l'année, on allait au ski avec toute l'équipe. Donc voilà, tu crées une culture. Tout le monde allait, on allait en Suisse faire du ski. Ensuite, on est allé à Bordeaux faire un très long week-end à Bordeaux, à Arcachon. Voilà, tu crées une culture où les gens sont contents de passer ce week-end. Tu vas en boîte de nuit avec eux, tu fais des bons restos, tu fais des jeux, des Olympiades. Et soudainement, tu passes de ça à tes 400 à février-mars 2020 à 2000. Et ces 1600 personnes qui sont arrivées n'ont jamais connu ça. N'ont jamais connu en fait ce qu'était le check-out d'avant. Et ça, c'est très dur de garder cette culture. Et donc là, maintenant, vu que les bureaux rouvrent, hein, on recommence à essayer de planifier des bonnes sorties qu'on pourrait faire, à ramener, bon, ramener 2000 dans un même hôtel, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, c'est pour moi, c'est pratiquement une des plus grosses, bon, la chose la plus importante dans une boîte qui grandit aussi vite, c'est de garder cette culture vivante. Pas facile, hein. Tu
Ouais.
dis surtout avec voilà les montants en jeu, les différentes façons, les levées de fonds, les gens qui partent ou les gens qui se font recruter par d'autres boîtes parce qu'elles aussi elles viennent de lever 300 millions donc elles savent pas quoi faire de leur argent donc elles proposent des choses un peu indécentes et donc c'est il faut garder l'envie de toujours vouloir réussir.
Ouais, et puis ce qui est étonnant, c'est que là, ça fait donc quelques podcasts là que je fais avec la mafia Checkout, c'est qu'il y a un ADN assez commun, c'est-à-dire que tu reconnais, alors même s'il y a eu quelques acquisitions, j'ai l'impression que ça va continuer à s'amplifier parce que vous n'allez pas croître comme ça de manière organique, ça semble très compliqué. Donc je pense à Process Out qui a bien su évoluer au sein de l'organisation avec je pense un gros fit sur l'ambition. Notamment et des gens extrêmement engagés. J'ai l'impression qu'effectivement l'espèce de culture, enfin la culture que Guillaume, le fondateur, a construit autour de lui sur le fait d'avoir une boîte qui gagne de l'argent, sur le fait d'être tout de suite très international avec un ADN franco-suisse-anglais,
On va dire.
on va dire ça, pour faire simple. Et puis l'idée d'avancer vite, vite, vite et toujours plus vite. J'ai l'impression qu'il y a un pattern qui se dessine autour de ces six levels que je vais sans doute découvrir avec d'autres interviews. Mais tout ce que tu me dis, en tout cas, résonne plutôt bien en fait.
Ouais, c'est bien higher. En fait, mal hire, ça te coûte un an. Surtout au head of, au C-level, ça peut te coûter un an et ça peut te coûter ta boîte. Donc en fait, si des gens écoutent et essaient de recruter, prenez votre temps à recruter un head of au C-level parce qu'en fait, ça change tout. Et le plus important, c'est pas leur qualité, c'est leur culture fit. Parce qu'il peut être le CPO, le CTO, le CRO le plus brillant, en fait, si personne veut travailler avec lui ou elle, ça va pas rester non plus. Et donc, ça, pour moi, c'est encore plus important que la qualité intrinsèque de est-ce qu'ils sont très forts en business ou en tech ou en product. Et ça, ça dépend de le fondateur. Voilà, Guillaume est très présent dans la boîte. Et ça, c'est aussi important. Mais le pattern, c'est être international très rapide. Oui. Et c'est de. Après, j'ai baigné. J'ai fait ma première boîte, c'est Checkout, donc je suis assez, on va dire, subjectif dans créer une boîte qui fait de l'argent, c'est-à-dire être capable de, comment dire, être capable de d'aller voir les VC, d'avoir les boîtes et dire voilà, nous on est profitable et que on a un run rate comme on veut et qu'on décide de notre futur.
Ok, dans les questions qui m'intéressent, Mathieu, peut-être pour finir, j'aimerais comprendre aujourd'hui qu'est-ce qui te fait rester? Qu'est-ce qui te fait que demain tu pars à New York, tu recommences d'une feuille blanche et tu dis ok, mais j'ai envie de passer de 2000 à 4000 personnes. C'est quoi le end goal de tout ça?
Ouais, intéressant. Tu y penses tous les jours à la fin. Ça fait 6 ans. Tu te dis là, je repars sur un nouveau projet. J'aime la feuille blanche en fait. C'est très intéressant parce que ça te permet d'être. C'est pas la même feuille blanche qu'il y a 6 ans. C'est pas la même qu'il y a 3 ans. C'est pas la même. On va dire maintenant, j'ai un peu plus de budget pour créer l'équipe que je veux vraiment créer. Mais en fait, c'est compétiteur né, Où, voilà, en fait, tu as tellement de choses cool à faire. Alors, cool, chacun a sa définition de qu'est-ce qui est cool. Moi, le paiement et Visa et Mastercard, ça m'intéresse. Hein. Il y en a d'autres qui pensent que c'est, et chacun a sa propre définition. Mais c'est un, l'aventure humaine. Comme dit, take it to the end. Et en fait, qu'est-ce qu'est la fin, en fait? Si cette boîte est là encore pendant 20 ans, 30 ans, dont je l'espère, voilà, chacun apprendra sa pierre à son édifice. Est-ce que je serai toujours là? Je sais pas, hein, t'as des boîtes chez Amazon où les gens, ça fait depuis 95 qu'ils y sont. Il y en a plus beaucoup, je pense. Mais je pense que ça c'est intéressant de voir déjà bien sûr une certaine IPO, c'est le rêve d'être là et quand même faire la cloche. Tu le fais pas souvent dans ta vie, si ce n'est jamais, mais le faire dans une boîte où je suis pas arrivé le 2000e à employé, que bon, ok, je serai là, c'est, mais le faire quand t'étais là pratiquement tout au début, c'est pas la même histoire, bien sûr. Et en fait, tant qu'on n'est pas numéro un, j'ai pas envie de partir. C'est dur, hein. C'est presque peut-être mon côté commercial et sales. Pour l'instant, il y a des boîtes qui sont très fortes devant nous en termes de volume, en termes de revenus, en termes de valo. Et c'est à nous et à moi aux US, parce que c'est quand même un des plus gros marchés. C'est le plus gros marché des e-commerce qu'on peut gagner, où on n'est encore pas énorme. Et c'est là où c'est d'apporter une autre pierre à l'édifice de ce côté-là. Donc je peux pas 2 ans, 5 ans, 10 ans, on verra bien. Mais ça dépendra de beaucoup de est-ce que la boîte reste la même en termes de culture fit. Et c'est compliqué, comme on a discuté dans les précédentes conversations, passer de 2 à 4 000, à 6 000, à 10 000 personnes. Bien sûr, tu dois créer des process. Et quand tu es dans une boîte où t'es 15, les process, t'en as moins, on va dire. On peut pas dire pas beaucoup, mais t'en as moins. C'est plus simple de discuter du product avec le CPO. Tu dis, eh, tiens, on va prendre un café. Est-ce que tu peux développer ça? Il fait, ouais, pas de problème. Le prochain sprint, ou maintenant, je dois mettre dans une feuille et c'est développé 9 mois plus tard. Ce qui est important, je dis, c'est très important le process parce que ça te permet d'éviter les erreurs. Mais en même temps, c'est pas la même. Comme on dirait, le même kiff. Mais c'est maintenant, c'est vraiment être to be number one.
Ah, c'est super, c'est vraiment il y a un aspect compétitif hyper prononcé dans ce que tu dis et t'as pas peur finalement d'investir encore plusieurs années pour atteindre cet objectif. Ça, c'est assez excitant et je comprends que quand on a commencé le kilomètre au kilomètre 3-4 et qu'on doit faire le marathon, bah on fait le marathon quoi. On
Ouais,
va
exactement.
juste
Le kilomètre 30-40 et sont les plus durs. Et c'est maintenant, voilà, t'as la valo qu'on a eue et maintenant c'est, il faut justifier la valo. Il faut justifier d'aller encore plus haut pour les investisseurs qui ont voulu croire en nous. Pour les gens qui joignent maintenant, il faut, on est peut-être au kilomètre 20 maintenant. Et que c'est, il faut prendre des petites barres des petites barres pour être en bonne forme. Mais c'est vrai que c'est intéressant. T'es obligé d'aimer la compétition. Là, t'as pas le choix. Il faut se réveiller tous les matins. C'est to the next one. One by one, comme dirait mon CEO.
Ouais, c'est super. Merci beaucoup Mathieu d'avoir partagé tout ça. Moi, je retiens le culture fit. Je pense que en tout cas, tu le matérialises très bien. Donc, j'ai
Merci.
l'impression que tu synthétises en tout cas bien ce que Checkout a réalisé, veut réaliser et va réaliser. Et j'ai hâte de voir. J'espère que tu seras sur la photo au moment de la cloche. Je pense que faut négocier ça avec Guillaume dès maintenant,
Ouais,
en
on verra bien. Je vais négocier. Si je signe ce compte, tu me le laisses.
Ah, c'est bien, c'est bien. Comme ça,
Ouais, c'est comme
tu
ça
alignes les
qu'on fait.
intérêts. C'est
De
comme
la
ça que.
compète, il y a toujours de la compète. Il y a toujours de la compète. C'est comme ça qu'on travaille. C'est de bonne ambiance, mais c'est vrai que culture fit et never give up. C'est la deuxième phrase qu'on fait. C'est il faut toujours tout donner. C'est dur, hein, mais prendre des vacances aussi en même temps. C'est important aussi de prendre des vacances.
Super. Un grand merci, bon courage pour New York.
Merci
Je te
beaucoup.
souhaite le meilleur et puis on aura l'occasion de se voir sur d'autres sujets, j'en suis sûr. À très bientôt.
Merci,
Salut,
merci.
salut.
Bye.
Un grand merci pour votre écoute. J'espère comme moi que vous avez passé un agréable moment avec ce talent. N'hésitez pas à partager cet épisode de Startup Mafia autour de vous. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode ou une nouvelle saison. Ciao, ciao!